Julie James, Un portrait de femme, chapitre 18. Ralph s'avisa qu'étant donné les circonstances, la séparation des deux amis risquait d'être un peu embarrassante, et descendit l'escalier avant sa cousine pour l'attendre à la porte de l'hôtel. Il vit bientôt arriver Isabelle, dont l'expression lui parut indicatrice d'une algarade. Le trajet de Garden Court s'accomplit entre eux dans un silence presque complet. Le domestique qui les attendait à la gare n'apportait pas de nouvelles rassurantes sur le compte de Mr. Touchett, et Ralph se félicita une fois de plus d'avoir obtenu de Sir Matthew Hope la promesse de venir par le train de 5 heures à Garden Court pour y passer la nuit. Mrs. Touchett était restée sans le quitter au chevet du vieillard et se trouvait à ce moment dans sa chambre, ce qui permit à Ralph de songer que tout ce qu'il fallait à sa mère, c'était une occasion. Les natures les plus belles sont celles qui se révèlent dans les grandes circonstances. Isabelle monta dans sa chambre et sentit dans la maison ce silence palpable qui annonce les crises. Une heure plus tard, elle se mit à la recherche de sa tante qu'elle voulait interroger sur l'état du malade. Elle entra dans la bibliothèque sans y trouver Mrs. Touchett et jugea qu'en présence du temps affreux qui avait succédé à une période de froid humide, il était peu probable qu'elle fût allée faire sa promenade quotidienne dans le parc. Isabelle allait sonner lorsque son geste fut interrompu par un bruit imprévu, un bruit assourdi de musique qui semblait venir du salon. Sachant que sa tante n'ouvrait jamais le piano, elle conclut que le musicien ne pouvait être que Ralph. Le fait de se livrer à cette distraction en un pareil moment impliquait apparemment un répit à son inquiétude, et Isabelle se dirigea avec un véritable soulagement vers la source des harmonies. Le salon de Garden Court était une pièce très vaste, et comme le piano reposait au plus loin de la porte d'entrée, l'arrivée d'Isabelle passa inaperçue de la personne assise devant l'instrument. Ce n'était ni Ralph, ni sa mère. C'était une dame, inconnue d'Isabelle, qui considéra un moment avec surprise la robe élégante et le dos bien proportionné tourné vers la porte. C'était évidemment une invitée survenue pendant son absence et dont n'avait parlé à Isabelle aucun des domestiques auxquels elle s'était adressée depuis son retour. Isabelle avait appris quel trésor de réserve peut engendrer l'habitude de recevoir des ordres, et ne s'étonnait pas d'être traitée avec quelque sécheresse par la femme de chambre de sa tante, aux mains de laquelle elle ne consentait jamais à s'abandonner, sans que cette méfiance eût en rien nui à sa mise. L'arrivée d'un nouvel hôte n'offrait en soi rien de déconcertant, car Isabelle n'avait jamais pu se départir de la foi naïve que toute connaissance allait exercer sur sa vie une influence considérable. En achevant ses réflexions, elle s'avisa que la pianiste jouait remarquablement bien. Elle jouait du Schubert. Isabelle, sans plus de précision, reconnut du Schubert, et effleurait le clavier avec une légèreté particulière qui dénotait la virtuosité et le sentiment. Isabelle s'assit sans bruit dans un fauteuil et attendit la fin du morceau. Elle éprouvait un véritable désir de remercier l'exécutante, et se levait pour le faire lorsque, au même moment, l'étrangère se retourna brusquement, comme si elle eût pris subitement conscience d'une présence nouvelle. « C'est une bien belle musique, et votre jeu l'embellit encore, » déclara Isabelle avec l'exubérance naïve dont elle usait d'ordinaire pour exprimer son sincère enthousiasme. « Alors vous ne croyez pas que j'ai dérangé Mr. Touchett ?» répondit l'inconnu avec toute l'amabilité que méritait un tel compliment. « La maison est si grande et sa chambre si éloignée que j'ai cru pouvoir me risquer, surtout en jouant comme je le faisais du bout des doigts. » « C'est une Française, elle a dit cela comme une Française, » songea notre héroïne, dont cette conclusion excitait encore plus l'intérêt. « J'espère que mon oncle va mieux, » ajouta-t-elle. « Il me semble qu'une aussi jolie musique devrait suffire à le guérir. » La dame sourit. « J'ai peur qu'il y ait des moments de la vie où Schubert lui-même ne nous importe plus beaucoup, » hasarda-t-elle. « Il faut d'ailleurs reconnaître que ce sont les plus mauvais. » « Alors je ne suis pas dans un de ces moments-là, » conclut Isabelle. « Je serais bien heureuse au contraire que vous consentiez à me jouer encore quelque chose. »« Si cela vous fait plaisir, j'en serais ravie. » Et reprenant sa place, l'obligeante personne frappa quelques accords, cependant qu'Isabelle s'approchait de l'instrument. Tout à coup, l'étrangère s'arrêta, les mains sur les touches, et se retourna à demi, la tête tournée par-dessus l'épaule. Elle avait une 40aine d'années et paraissait dépourvue de beauté, sinon de charme. « Excusez-moi, » dit-elle, « vous êtes sans doute la nièce, la jeune américaine. »« Je suis la nièce de Mrs. Touchett, » répondit Isabelle avec simplicité. La pianiste resta un moment immobile, les yeux toujours tournés avec intérêt par-dessus son épaule, puis se remettant à jouer. « « C'est très bien, dit-elle, nous sommes compatriotes. »« Ah, elle n'est pas française, murmura Isabelle, et comme la première hypothèse l'avait fait rêver, on aurait pu croire que cette révélation allait la désenchanter. Mais il en alla tout autrement, car la qualité d'américaine lui semblait, en de telles conjectures, plus rare encore que celle de française. La dame s'était remise à jouer très doucement et très solennellement, et l'obscurité s'épaississait dans la pièce. Le crépuscule d'automne tombait, et de sa place, Isabelle voyait la pluie, très drue maintenant, laver la pelouse glacée, et le vent balançait les grands arbres. À la fin, quand le piano se tut, l'étrangère se leva, et s'approchant d'Isabelle sans lui laisser le temps de renouveler ses remerciements, lui dit « Je suis très contente que vous soyez revenue. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Isabelle la trouvait très séduisante, et ne mit pas moins une certaine brusquerie dans sa réponse. « Par qui ?» L'étrangère hésita une seconde, puis « Par votre oncle, dit-elle. Je suis ici depuis 3 jours et, le premier jour, il m'a laissé lui faire une visite dans sa chambre. Il n'a pas cessé de me parler de vous. Ce qui a dû bien vous ennuyer puisque vous ne me connaissiez pas. Cela m'a donné l'envie de vous connaître. D'autant plus que depuis lors, votre tante étant restée constamment auprès de son mari, je me suis trouvée bien seule et assez vite lasse de ma propre compagnie. J'ai bien mal choisi mon moment pour venir. » On apporta bientôt les lampes et un second domestique survint avec le plateau du thé. On avait dû prévenir Mrs. Touchett car elle fit son apparition et marcha droit à la théière. L'accueil qu'elle fit à sa nièce ne se distingua matériellement en rien de la façon dont elle souleva le couvercle de ce réceptacle pour jeter un coup d'œil sur son contenu. Elle ne jugeait pas séant de montrer plus de chaleur dans l'un que l'autre de ses gestes. Interrogée sur l'état de son mari, elle ne put pas dire qu'il fût mieux. Le médecin du pays était près de lui, et l'on fondait beaucoup d'espoir sur la consultation de ce praticien avec Sir Matthew Hope. « J'espère que vous avez fait connaissance, » poursuivit-elle. « Sinon, je vous engage à le faire, car tant que nous continuerons, Ralph et moi, à nous cantonner dans la chambre de Mr. Touchett, vous n'aurez pas grand-chose en fait de compagnie que votre société réciproque. »« Je ne sais rien d'autre sur vous que le fait d'être une grande musicienne, » dit Isabelle à l'étrangère. « Il y en a bien plus long à savoir sur son compte, » affirma Mrs. Touchett de son petit ton sec. « Miss Archer se contentera de peu de détails, j'en suis certaine, » s'écria la dame avec un léger rire. « Je suis une vieille amie de votre tante. J'ai beaucoup vécu à Florence. Je suis Madame Merle. » Elle prononça ce nom comme s'il eût désigné une personne de notabilité connue. Mais, pour Isabelle, il ne représentait pas grand-chose. Elle se contenta de penser que les façons de Madame Merle étaient les plus charmantes qu'il lui eût jamais été donné de voir. « Elle n'a rien d'étranger, malgré son nom, » intervint Mrs. Touchett. « Elle est de... J'oublie toujours où vous êtes née. Alors il n'est pas nécessaire de vous le rappeler. » « Au contraire, » riposta Mrs. Touchett, qui manquait rarement l'occasion de marquer un point de logique. « Si je m'en souvenais, il serait tout à fait superflu à vous de me le dire. » Madame Merle regarda Isabelle avec un sourire universel, un sourire qui dépassait les frontières. « Je suis née à l'ombre du drapeau national. »« Elle cultive trop le mystère, » dit Mrs. Touchett. « C'est son grand défaut. »« Ah !» s'écria Madame Merle, « j'ai de grands défauts, mais pas celui-là. Ce n'est en tout cas pas le plus grand. » Je suis venue au monde dans l'arsenal de Brooklyn. Mon père était officier supérieur de la marine des États-Unis et occupait à l'époque un haut poste dans cet établissement. Je devrais, évidemment, aimer la mer, et je la déteste. C'est ce qui m'empêche de retourner en Amérique. J'aime la terre. L'important, c'est d'aimer quelque chose. En témoin impartial, Isabelle avait douté de la justesse du reproche adressé par Mrs. Touchett à la nouvelle venue, dont le visage expressif, mobile et ouvert ne lui paraissait pas du tout trahir un caractère renfermé. C'était un visage qui indiquait au contraire une nature large et des tendances expansives, et qui, sans beauté régulière, était au plus haut point attirant et aimable. Madame Merle était une grande femme, blonde et douce. Tout dans sa personne semblait rond et plein, bien que sans ces accumulations qui indiquent la lourdeur. Ses traits marqués gardaient une proportion et une harmonie parfaite, et son teint clair respirait la santé. Elle avait des yeux gris pleins de lumière malgré leur exiguïté, et aussi peu faits, à croire certaines personnes, pour répandre des larmes que pour trahir la stupidité. Quant à la bouche large et bien dessinée, les sourires en élevaient un peu le coin gauche, d'une façon que nombre de gens trouvaient très bizarre, d'autres très affectés, et quelques-uns très gracieuses. Isabelle inclinait à se ranger dans la dernière catégorie. Madame Merle avait une épaisse chevelure blonde, disposée de façon un peu classique, comme celle des bustes de Junon ou de Niobé, et de grandes mains blanches, d'un dessin si parfait que leur propriétaire préférait les laisser nus et ne portait pas de bagues. Isabelle l'avait prise tout d'abord, comme nous l'avons vu, pour une Française, mais une observation plus serrée aurait pu faire voir en elle une Allemande de haute lignée, peut-être une Autrichienne, baronne, comtesse ou princesse. On n'aurait jamais imaginé qu'elle fût venue au monde à Brooklyn, sans pouvoir d'ailleurs fournir aucun argument pour que l'air de distinction qui la rendait si remarquable fût incompatible avec une telle origine. Il est vrai que le pavillon national flottait juste au-dessus de son berceau, et l'on pouvait supposer que l'aérienne liberté de la bannière étoilée avait exercé une influence sur l'attitude qu'elle avait adoptée à l'égard de la vie. Elle n'offrait pourtant aucune des dispositions agitées et bruyantes d'un morceau d'étamine au vent, et son extérieur indiquait le calme et la confiance qui naissent d'une expérience étendue. Mais cette expérience n'avait pas étouffé sa jeunesse, et l'avait seulement inclinée à plus de souplesse et de sympathie. En un mot, c'était une femme dont les fortes impulsions étaient maintenues en ordre parfait, ce qui faisait à Isabelle l'effet d'une combinaison idéale. La jeune fille faisait ses réflexions pendant que les trois dames buvaient leur thé, cérémonie bientôt interrompue par l'arrivée du grand médecin de Londres, que l'on avait fait entrer tout droit au salon. Mrs. Touchett l'emmena dans la bibliothèque pour lui parler seule à seule, et Madame Merle et Isabelle se séparèrent jusqu'à l'heure du dîner. L'idée de bientôt revoir une femme aussi intéressante contribua beaucoup à alléger pour Isabelle l'atmosphère de tristesse qui s'épaississait sur Garden Court. En pénétrant dans le salon avant le dîner, elle trouva la pièce vide, mais Ralph y fit bientôt son entrée. Son inquiétude sur l'état de son père s'atténuait, car l'impression de Sir Matthew Hope s'était trouvée moins défavorable que la sienne. Le docteur ayant prescrit que la garde demeura seule pendant 3 ou 4 heures près du malade, Ralph, sa mère et le grand praticien lui-même venaient dîner à table. Mrs. Touchett et Sir Matthew entrèrent dans le salon où Madame Merle se faisait attendre. Avant son arrivée, Isabelle demanda quelques détails à Ralph, qui se tenait debout devant la cheminée. « Dites-moi, je vous prie, qui est donc cette Madame Merle ?»« La femme la plus remarquable que je connaisse, sans vous excepter. Je l'ai trouvée très charmante. » J'étais sûre qu'elle vous plairait. Est-ce pour cela que vous l'avez invitée? Je ne l'ai pas invitée, et en rentrant de Londres, j'ignorais qu'elle fût là. Personne ne l'a invitée. C'est une amie de ma mère qui a reçu un mot d'elle juste après notre départ. Elle venait de débarquer en Angleterre, elle habite en général l'étranger, bien qu'elle n'ait naguère encore passé beaucoup de temps chez nous, et demandait la permission de venir quelques jours ici. C'est une femme qui peut risquer en toute confiance de telles propositions. Où qu'elle aille, on est ravis de la voir. Et pour ma mère, il n'y a pas d'hésitation possible, car c'est la seule femme au monde qu'elle admire hautement. Si elle n'était pas elle-même, ce que malgré tout elle préfère de beaucoup, elle voudrait être Madame Merle, ce qui représenterait un grand changement à coup sûr. « Elle est certainement charmante, dit Isabelle, et elle joue admirablement. Elle fait tout admirablement, c'est une femme complète. » Isabelle considéra un moment son cousin. « Vous ne l'aimez pas. » Au contraire, il fut un temps où j'étais amoureux d'elle. Elle ne vous a pas écouté, et c'est pour cela que vous ne l'aimez pas. Comment aurions-nous pu aborder pareil sujet du vivant de Monsieur Merle? Il est mort maintenant? À ce qu'elle dit? Vous ne le croyez pas? Si, parce que son affirmation s'accorde avec les probabilités. Le mari de Madame Merle est de ceux qui doivent disparaître. Isabelle regarda de nouveau son cousin. Je ne vous comprends pas. Vous sous-entendez quelque chose que vous ne dites pas. Qu'est-ce que c'était que Monsieur Merle? Le mari de Madame Merle. Vous êtes bien odieux. A-t-elle des enfants? Pas le moindre enfant, heureusement. Heureusement? Je veux dire, pour l'enfant. Elle l'aurait sûrement gâté. Isabelle allait pour la troisième fois chapitrer son cousin quand la discussion fut interrompue par l'arrivée de la dame en question. Toute froufroutante, elle entra d'un pas vif en attachant son bracelet et s'excusa d'être en retard. Elle portait une robe de satin bleu sombre, dont le décolleté laissait voir une gorge blanche, mal dissimulée par un singulier collier d'argent. Ralph lui offrit le bras, avec l'excessive courtoisie de l'homme qui n'était plus amoureux. Le fut-il même resté, qu'il eût eu d'autres sujets de méditation. Le grand praticien passa la nuit à Garden Court et repartit à Londres après une seconde consultation avec le médecin de Mr. Touchett. Pour répondre au désir de Ralph, il avait promis de revoir bientôt le malade et revint en effet le lendemain à Garden Court. Il eut cette fois une impression moins favorable. L'état du vieillard empirait. Sa faiblesse était extrême et son fils, qui demeurait sans cesse près de lui, s'attendait à le voir passer d'un moment à l'autre. Le médecin du CRU, homme très avisé en qui Ralph avait secrètement plus confiance qu'en son illustre collègue, ne sortait guère de la maison, où Sir Matthew Hope revint plusieurs fois. Mr. Touchett n'avait plus que de rares intervalles de conscience, dormait beaucoup et parlait fort peu. Isabelle, qui éprouvait un grand désir de se rendre utile, obtint de veiller le malade quand ses autres gardes, dont Mrs. Touchett n'était pas la moins assidue, iraient se reposer. Il ne semblait jamais la reconnaître, et elle se disait toujours « S'il allait mourir pendant que je suis là », avec une insistance qui la tenait éveillée. Une fois, il ouvrit les yeux un moment et fixa sur elle un regard lucide, mais lorsqu'elle se pencha sur lui avec l'espoir qu'il allait la reconnaître, il ferma les paupières et retomba dans sa stupeur. Le lendemain, cependant, il reprit plus longuement connaissance, alors que Ralph se trouvait seul près de lui. Le vieillard se mit à parler, à la grande joie de son fils, qui lui affirma qu'on allait bientôt le faire asseoir. « Non, mon fils, » dit Mr. Touchett, « à moins qu'on ne m'enterre assis, comme le faisaient certains anciens. C'était bien des anciens, n'est-ce pas ?»« Ah, papa, ne dis pas cela, » murmura Ralph. « Tu ne vas pas nier que tu n'ailles mieux. »« Je n'aurai pas à le nier si tu ne le dis pas. Pourquoi nous chicaner à la dernière heure, quand nous ne l'avons jamais fait encore ? Il faut bien mourir un jour, et mieux vaut mourir malade que valide. Je suis très malade, aussi malade que je pourrais jamais l'être. Je ne pense pas que tu veuilles dire que je pourrais être plus mal. » Ce serait trop affreux, non? N'est-ce pas? Eh bien alors. » Ayant marqué un point irréfutable, il s'assoupit, puis, dès que Ralph se retrouva à son chevet, il renoua la conversation. L'infirmière était allée souper, et Ralph se trouvait seul dans la chambre où il avait relevé Mrs. Touchett, qui était de garde depuis le dîner. La pièce n'était éclairée que par la lueur mouvante du feu, depuis peu nécessaire, et la grande ombre de Ralph se projetait sur les murs et sur le parquet, avec des contours sans cesse altérés, mais toujours grotesques. « Qui est là près de moi ? Est-ce mon fils ? Oui, père, c'est ton fils. Et il n'y a personne d'autre. Personne. » Mr. Touchett garda un instant le silence, puis tout à coup. « Je voudrais te parler un peu, » dit-il. « Ne crains-tu pas de te fatiguer ? » objecta Ralph. « Peu importe, j'ai un long repos devant moi. C'est de toi que je veux parler. » Ralph avait rapproché sa chaise du lit et se penchait pour poser une main sur celle de son père. « Tu ferais mieux de choisir un sujet plus brillant. Tu as toujours été brillant, j'étais fier de toi. J'aimerais tant penser que tu feras quelque chose. » « Si tu nous quittes, » dit Ralph, « je n'aurai plus qu'à te pleurer. » « C'est précisément ce que je ne veux pas et ce dont je m'inquiète. Il faut trouver un motif d'intérêt nouveau. » « Je n'ai que faire de nouveaux motifs d'intérêt, père. J'en ai déjà bien trop d'anciens. » Le vieillard considérait son fils. Dans son visage de mourant, ses yeux restaient ceux de Daniel Touchett. Il semblait réfléchir à ce qui pouvait intéresser Ralph. « Évidemment, tu as ta mère, » dit-il. « Tu prendras soin d'elle. » « Ma mère saura toujours prendre soin d'elle-même. » « Qui sait ? Peut-être qu'en vieillissant, il lui faudra un peu d'aide. » « Je ne verrai pas cela. Elle me survivra. » « C'est très probable, mais ce n'est pas une raison. » Mr. Touchett laissa sa phrase s'achever en un soupir d'impuissance plus que de véritable tristesse, et resta de nouveau silencieux. « Ne te tourmente pas à notre sujet, » dit son fils. « Tu sais que nous faisons très bon ménage, ma mère et moi. »« Oui, parce que vous êtes toujours séparés, ce qui n'est pas naturel. Si tu nous quittes, nous demeurerons plus souvent ensemble. »« Oh !» fit observer le vieillard avec l'illogisme du délire. « On ne peut pas dire que ma mort changera grand-chose à la vie de ta mère. »« Elle la modifiera sans doute plus que tu ne crois. »« En tout cas, elle aura plus d'argent. Je lui laisse une belle somme, comme si elle avait été une bonne épouse pour moi. »« Elle l'a été à sa façon, père. Elle ne t'a jamais causé de tracas. »« Il y a des tracas que l'on aime, » murmura le vieillard. « Ceux que tu m'as causés, par exemple. Mais ta mère a été moins loin de moi depuis que je suis malade. J'espère qu'elle sait que je m'en suis rendu compte. Je le lui dirai certainement. Je suis si heureux de te l'entendre dire. Elle n'y attachera pas beaucoup d'importance. Elle ne le fait pas pour te faire plaisir. Elle le fait pour... » Le vieillard resta un moment immobile, cherchant à exprimer sa pensée. « Elle le fait parce que cela lui convient. D'ailleurs, ce n'est pas d'elle que je voulais parler, » ajouta-t-il. « C'est de toi. « Tu vas être très riche. »« Oui, » dit Ralph, « je le sais, et j'espère que tu n'as pas oublié notre entretien de l'an dernier, où je t'ai dit la somme exacte dont j'aurais besoin, en te priant de faire bon usage du reste. »« Oui, oui, je m'en souviens. J'ai fait un autre testament quelques jours plus tard. Je pense que c'est la première fois qu'on aura vu pareille chose. Un jeune homme demandant un testament contraire à ses intérêts. Ce n'est pas tout à fait cela, protesta Ralph. Ce qui serait contraire à mes intérêts, ce serait d'avoir une grosse fortune à gérer. Il est impossible pour un homme dans mon état de santé de dépenser beaucoup d'argent, et c'est déjà un luxe que d'en avoir assez. Oh, tu en auras assez, et même un peu trop. Il y aura plus qu'assez pour un, il y aura assez pour deux. C'est trop, protesta Ralph. Ah, ne dis pas cela. Ce que tu peux faire de mieux quand je serai mort, ce sera de te marier. Ralph avait deviné où son père voulait en venir, et cette suggestion n'avait rien de nouveau pour lui. C'était depuis longtemps chez Mr. Touchett la façon la plus ingénieuse d'imaginer une survie probable pour son fils. Ralph accueillait d'habitude cette proposition avec enjouement, mais la jovialité n'était pas de mise dans les circonstances présentes. Aussi se laissa-t-il retomber sur son siège, en répondant au regard implorant de son père. « Si j'ai mené, moi, une vie très heureuse près d'une femme qui ne m'aimait pas trop, » poursuivit le vieillard avec un grand déploiement d'ingénuité, « quelle existence pourrais-tu avoir en épousant une personne différente de Mrs. Touchett? On en trouverait plus facilement de différentes que de pareilles à elle. » Et devant ce silence persistant de Ralph, le vieillard reprit doucement. « Que penses-tu de ta cousine ?» Cette question fit tressaillir Ralph, qui eut un sourire contraint. « Dois-je comprendre que tu me conseilles d'épouser Isabelle ?»« Oui, c'est bien ce que je veux dire. Est-ce qu'elle ne te plaît pas ?»« Si, beaucoup. » Et se levant de son siège, Ralph s'approcha de la cheminée, puis se baissa et se mit à tisonner machinalement le feu. « Isabelle me plaît beaucoup, » répéta-t-il. « Eh bien, » reprit son père, « je sais que tu lui plais beaucoup aussi. Elle ne me l'a pas caché. » « A-t-elle dit qu'elle aimerait être ma femme ?»« Non, mais elle ne peut avoir aucune objection à faire à ta personne, et c'est la jeune fille la plus charmante que j'ai jamais rencontrée. Elle serait très bonne pour toi. J'ai bien envisagé ce projet. » « Moi aussi, je peux te l'avouer, » dit Ralph, en revenant près du lit. « Alors tu l'aimes, cela ne m'étonne pas. On dirait qu'elle est venue exprès pour toi. » « Non, je ne suis pas amoureux d'elle. Je le serais si... s'il en allait autrement de certaines choses. » « Ah, les choses ne sont jamais ce qu'elles pourraient être, » soupira le vieillard. « Si l'on attend qu'elles changent, on ne fait jamais rien. Je ne sais pas si tu es au courant du fait, et ne crois pas qu'il y ait d'inconvénient à le dire. » Il y a un homme qui voulait épouser Isabelle, et dont elle n'a pas voulu. Je sais qu'elle a refusé Warburton, il me l'a raconté lui-même. Cela prouve qu'il y a des chances pour un autre. Un autre a tenté sa chance à Londres, et n'a rien obtenu. « C'était toi ?» demanda vivement Mr. Touchett. « Non, c'était un ami de plus longue date, un pauvre garçon qui est venu d'Amérique pour voir où en étaient les choses. Je le regrette pour lui, quel qu'il fût. C'est une preuve de plus que j'ai raison, et que la voie est libre pour toi. » « Si elle l'est, cher père, il est d'autant plus dommage que je ne puisse m'y engager. Sans avoir beaucoup de convictions, j'en ai du moins 3 ou 4 auxquelles je tiens ferme. L'une, c'est qu'en général, il vaut mieux ne pas épouser sa cousine. La seconde, c'est qu'un homme atteint de lésions pulmonaires avancées ne doit pas se marier du tout. » Le vieillard leva sa main décharnée et la balança devant son visage. « Qu'est-ce que tu dis là? Tu as une façon de présenter les choses qui ferait tout voir en mal. » « Qu'est-ce que c'est, en fait, de cousine, qu'une cousine que tu n'as jamais aperçue pendant plus de 20 ans? Nous sommes tous cousins les uns des autres, et s'il fallait s'arrêter à cette considération, l'humanité périrait. Il en va de même pour ton poumon. Tu te portes beaucoup mieux que tu ne l'as fait depuis longtemps. Tout ce qu'il te vaut, c'est une vie naturelle, et il est beaucoup plus naturel d'épouser une jolie jeune fille dont on est amoureux que de se vouer au célibat au nom de principes fallacieux. Je ne suis pas amoureux d'Isabelle. » Tu viens de dire que tu le serais si tu croyais que cela te fût permis. Je veux te prouver que cela t'est permis, en effet. » « Et cela ne servira qu'à te fatiguer, mon cher père, » dit Ralph, qui s'étonnait de la ténacité de Mr. Touchett et de la force dont il faisait montre. « Et alors, qu'est-ce que nous deviendrons tous ?»« Et toi, qu'est-ce que tu deviendras donc si je ne décide pas de ton avenir ? Tu ne veux pas travailler à la banque et tu ne m'auras plus pour t'occuper ? Tu prétends avoir beaucoup de sujets d'intérêt, mais je ne les vois pas très bien. » Ralph se renversa dans son fauteuil, les bras croisés, les yeux perdus dans une méditation profonde. À la fin, avec l'air d'un homme qui rassemble tout son courage. « Je porte à ma cousine un profond intérêt, avoua-t-il, mais pas dans le sens que tu entends. Je ne vivrai pas longtemps. J'espère seulement durer assez pour voir ce qu'il adviendra d'elle. Elle est absolument indépendante de moi, et je ne puis exercer sur sa vie qu'une influence médiocre. J'aimerais pourtant faire quelque chose pour elle. » Quoi donc ? Donner un peu de vent à ses voiles. Qu'entends-tu par là ? Je voudrais la mettre à même d'accomplir certaines choses dont elle a envie. Elle veut voir le monde, par exemple. J'aimerais garnir un peu sa bourse. Ah ! Je suis heureux que tu y aies pensé. Moi aussi j'y ai pensé. Je lui laisse 5 000 livres. C'est magnifique et bien gentil de ta part, mais je souhaiterais faire davantage. » Un reste de l'expression d'astuce voilée avec laquelle Daniel Touchett avait toujours accueilli une proposition d'ordre financier passa sur le visage, où les traits du moribond n'avaient pas encore tout à fait effacé ceux de l'homme d'affaires. « J'y réfléchirai, » dit-il doucement. « Isabelle est pauvre. Ma mère m'a dit qu'elle n'a que quelques centaines de dollars de rente. Il faudrait la rendre riche. »«
Qu'appelles-tu riche ?»«
J'appelle riche les gens qui peuvent satisfaire les fantaisies de leur imagination. » Isabelle a beaucoup d'imagination. Toi aussi, mon fils, dit Mr. Touchett, qui écoutait avec une grande attention et sans très bien comprendre. Tu me dis que j'ai assez d'argent pour deux. Ce que je te demande, c'est de me soulager de mon superflu pour le passer à Isabelle. Partage mon héritage en deux moitiés, dont tu lui donneras une.
Pour en faire ce qui lui plaira.
Entièrement.
Et sans contrepartie?
Quelle contrepartie pourrions-nous exiger?
Celle dont je viens de te parler.
Son mariage, avec l'un ou avec l'autre, c'est justement pour écarter toute considération de ce genre que je fais ma proposition. Si elle possède un revenu suffisant, elle n'aura jamais à se marier pour trouver une situation. Voilà ce que je voudrais pouvoir empêcher. Elle demande à rester libre, et ta donation lui assurera la liberté.
Tu parais avoir bien considéré la question, dit Mr. Touchett, et je ne vois pas pourquoi tu t'adresses à moi. L'argent t'appartiendra, et tu pourras facilement le lui donner toi-même.
Ralph ouvrit de grands yeux. « Voyons, mon cher père, je ne puis pas, moi, offrir de l'argent à Isabelle. » Le vieillard gémit.
« Ne me dis pas que tu n'es pas amoureux d'elle. Tu veux donc que j'en obtienne seul le crédit ?»«
Absolument. Je souhaiterais que ce fût une clause de ton testament, sans la moindre mention de ma personne. »«
Alors il faut que je refasse mon testament. » »«
Il suffirait de quelques lignes. Tu les rédigeras dès que tu te sentiras un peu de force. »«
Il faut télégraphier à Mr. Hillary, alors. » Je ne ferai rien sans mon avoué.
Tu verras M. Hillary demain.
Il croira que nous nous sommes querellés.
C'est fort probable, et j'en serai enchanté, dit Ralph en souriant. D'ailleurs, pour le confirmer dans cette opinion, je t'avertis que je serai très sec, très désagréable et très froid à ton égard.
L'ironie de la situation parut sourire au vieillard, qui resta un moment silencieux comme s'il en savourait l'idée.
« Je ferai tout ce que tu voudras, » acquiesça-t-il enfin. « Mais je ne suis pas certain que ce soit raisonnable. » Tu dis que tu veux souffler du vent dans ses voiles. N'as-tu pas peur d'en souffler trop ?
Je voudrais la voir courir sous le vent.
Tu dis cela comme s'il ne s'agissait pour toi que d'une distraction.
C'est un peu vrai.
Eh bien, je ne comprends pas, soupira Mr. Touchett. Les jeunes gens sont bien différents de ce que j'étais. Quand j'aimais une jeune fille au temps de ma jeunesse, je souhaitais mieux que de la regarder. Tu as des scrupules que je n'aurais pas eus, et des idées que je n'aurais pas eues non plus. Tu dis qu'Isabelle veut être libre et que le fait d'être riche l'empêchera de se marier pour l'argent. La crois-tu donc femme à le faire ?
Certes non, mais elle a moins d'argent qu'elle n'en a jamais eu. Son père satisfaisait tous ses désirs parce qu'il mangeait son capital. Elle n'a plus que les miettes du festin pour vivre, et elle ignore encore leur parcimonie. Il lui reste à l'apprendre. Ma mère m'a donné tous les détails qu'Isabelle connaîtra lorsqu'elle viendra en contact avec le monde. Il me serait très pénible de songer à des désirs qu'elle serait dans l'impossibilité de satisfaire.
Je lui ai laissé 5 000 livres, il y a là de quoi satisfaire bon nombre d'envies.
C'est vrai, elle les dépensera probablement en 2 ou 3 ans.
Tu la crois donc extravagante ?
Certainement, répondit Ralph en souriant avec sérénité. La pénétration du pauvre Mr. Touchett faisait rapidement place à des idées confuses.
Alors ce ne serait qu'une question de temps pour elle de dépenser une plus grosse somme.
Non, au début elle en userait sans doute assez librement et commencerait par en distraire une partie pour ses sœurs. Mais après, elle reprendrait une juste notion des choses, et se souvenant qu'elle aurait la vie devant elle, se mettrait à vivre selon ses ressources.
« Mon Dieu, comme tu as étudié la question !» dit le vieillard avec un soupir. « Tu t'intéresses évidemment à elle !»«
Tu ne peux pas m'accuser d'aller trop loin, toi qui me demandes d'aller plus loin encore. »«
Je ne le sais pas, j'ai de la peine à entrer dans tes vues. Tout cela me paraît immoral. »«
Immoral, père ?»
Je ne suis pas certain qu'il soit juste de trop faciliter les choses à une personne.
Cela dépend de la personne. Si elle est bonne, le fait de lui fournir les choses est tout au crédit de la vertu. Peut-on mieux faire que d'aider à la mise en œuvre d'impulsions généreuses ?
Ce raisonnement était un peu ardu et fit un instant réfléchir Mr. Touchett. À la fin, il demanda. « Isabelle est une enfant charmante, mais la crois-tu vraiment si bonne ?»«
Elle sera à la hauteur de ses meilleures chances. »«
Elle aura pas mal de chances pour 60 000 livres. »«
Je n'en doute pas. » »«
Je ferai ce que tu demandes, » conclut le vieillard. « Je voudrais seulement un peu mieux comprendre. »«
Est-ce que tu ne comprends pas maintenant ?» demanda son fils avec tendresse.
« Si cela t'ennuie, nous n'en parlerons plus. »
Mr. Touchett resta longtemps immobile, et Ralph supposait qu'il ne songeait plus à l'affaire lorsqu'il reprit avec une parfaite lucidité.
« Dis-moi d'abord, ne songes-tu pas qu'une fortune de 60 000 livres a de quoi tenter les coureurs de dot ?»«
Isabelle ne pourrait être la victime d'un seul. »«
C'est déjà trop d'un. » »«
D'accord, c'est un risque dont j'ai tenu compte dans mes calculs. » Il est appréciable, mais me paraît faible, et je consens à le courir. »
L'astuce du pauvre Mr. Touchett cédait à une inquiétude qui se mua à son tour en admiration.
« Eh bien, tu as étudié la question, » répéta-t-il, « mais je ne vois pas le profit que tu prétends en tirer. »
Ralph se pencha sur les oreillers du malade et les lissa doucement. Il se rendait compte que l'entretien s'était indûment prolongé. « J'en tirerai précisément le profit que je te disais tout à l'heure. » Vouloir mettre Isabelle à même de satisfaire les désirs de son imagination. Mais ce qui est scandaleux, c'est la façon dont j'ai abusé de toi. »